Bonjour. Imaginez, s'il vous plaît, que demain matin, vous allumez France Info et on vous dit « La baguette, il faut laisser tomber la baguette. C'est la baguette, dit France Info, qui est la source de tous nos problèmes de santé, nos problèmes de famille, nos problèmes de société. » Il ne faut plus manger la baguette. Oh, oh là là. Ce serait une pilule difficile à avaler, n'est-ce pas? Comment est-ce que quelque chose qui est si important pour notre vie quotidienne, pour notre culture, pour nos repas, peut-il être mis à côté du jour au lendemain? Heureusement, France Info ne va pas annoncer une telle nouvelle demain matin. Mais dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul a dit, il n'a pas dit beaucoup de bien par rapport à la loi de Moïse. Comment est-ce que la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, qui a été si importante pour les Juifs, pour la culture juive, pour la vie quotidienne. Comment la loi de Moïse peut-elle être mise de côté du jour au lendemain? Alors Paul va nous aider à mieux comprendre la loi de l'Ancien Testament. Il va nous aider à mieux comprendre le péché. Et tout cela, ça va avoir des conséquences pour notre lecture de l'Ancien Testament, pour notre lutte contre le péché. Je dois dire aussi que les versets que nous allons lire ce matin sont parmi les versets les plus discutés du Nouveau Testament. Donc ce que je vais dire ce matin, ce n'est pas le dernier mot. Et si je contredis quelque chose que vous avez déjà entendu, je vous demande, s'il vous plaît, ne divisons pas sur l'interprétation de ces versets. Certains écrivains que je respecte énormément prennent un autre point de vue. Alors c'est une bonne raison pour prier Dieu qui nous aide. C'est une bonne raison de faire comme les réformateurs et revenir aux sources. Et donc prions Dieu qui a inspiré ces mots de nous aider. Je vais prier et je vais prier à partir du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, notre Père Céleste, nous voulons être heureux. Nous voulons être comme cet arbre planté près d'un cours d'eau. Alors, s'il te plaît, donne-moi à bien expliquer ces versets. Donne-nous de bien comprendre ces versets et de voir comment les croire et comment les mettre en pratique aujourd'hui et cette semaine, s'il te plaît. Amen. Amen. Je vais passer la parole à Christelle pour la lecture. Donc, c'est Romains 7, mais je vous laisse donner, s'il te plaît, la page et la référence.
Page 736. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi et je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marquée par ma nature, vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais bien que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché.
Merci Christelle. Nous avons deux sections ce matin, deux parties. D'abord, les versets 7 à 13. La loi n'est pas le problème, c'est le péché. Et puis, deuxième section, les versets 14 à 25. La loi est impuissante contre le péché. Donc nous allons commencer avec la loi n'est pas le problème, c'est le péché. Alors est-ce que vous voyez l'objection au verset 7? La loi est-elle péché? Telle pourrait être l'objection d'un juif ou d'un chrétien d'arrière-plan juif qui écoute Paul. Paul qui n'a pas eu grand-chose positif à dire sur la loi de Moïse. Chapitre 3, verset 20, Paul a écrit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres. » La loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ou le chapitre 4, verset 15, « La loi produit la colère de Dieu. » Ou le verset 20 du chapitre 5, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Ou chapitre 6, verset 14, le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la semaine dernière, nous lisions au sujet de notre libération de la loi. Et selon chapitre 7, verset 5, en effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non pas sous le régime périmé de la loi écrite. Alors, si la loi éveillait des passions pécheresses, si nous avons dû être libérés de la loi de l'Ancien Testament, de Moïse, est-elle péché? Ce serait une pilule difficile à avaler pour les chrétiens d'origine juive ou pour le juif sur les marges de l'Église qui écoute ce que les chrétiens disent. Alors, comment répond Paul? La loi est-elle péché? Certainement pas. Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché par l'intermédiaire de la loi. Donc, la loi n'est pas le problème, c'est le péché. La loi n'est pas péché, mais la loi dévoile le péché. La loi provoque aussi le péché. Et la loi condamne le péché. D'abord, la loi dévoile le péché. C'est à la fin du verset 7. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc, c'est le dixième commandement qui nous dit de ne pas convoiter. Alors, sans la loi, c'était la conscience des hommes donnée par Dieu qui nous aide à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais une fois que Dieu a parlé, la convoitise, par exemple, est nommée et définie. Et c'est désormais clair de voir quand je suis en train de désobéir à Dieu. Alors la loi nomme, définit ou dévoile le péché. Mais la loi provoque aussi le péché. C'est le verset 8. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. C'est triste à noter, mais le péché peut provoquer le péché. Quand vous êtes au musée et vous voyez l'étiquette « Ne touchez pas », si vous êtes comme moi, vous avez envie de toucher. Nous imaginons tristement que la loi existe pour nous empêcher de faire quelque chose de bien, de marrant, de sympa. Nous imaginons que nous savons mieux que celui qui nous a instauré la loi. Et donc, la loi a l'effet de provoquer le péché en nous. Et puis aussi, la loi condamne le péché, ce qui nous donne la mort. Au verset 10, il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. La loi dit que le péché mérite la mort. Alors quand le péché, quand la loi dévoile le péché, quand la loi provoque le péché, la loi condamne aussi le péché comme méritant la mort. La loi nomme le coupable comme méritant la mort. C'était l'expérience d'Adam. Genèse 3, n'est-ce pas? C'était l'expérience d'Adam. Il y avait la loi. Tu ne mangeras pas de l'arbre du bien et du mal. Et cette loi a bien dévoilé le péché pour Adam. La loi a aussi provoqué le péché, car Adam et Ève ont suivi le raisonnement du serpent. Ils ont pensé que Dieu était un rabat-joie, qui savait mieux que lui. Et la loi a condamné le péché, car la mort est entrée dans le monde. Adam et Ève ont été séparés de Dieu, la source de la vie. Et voici l'expérience de tous les êtres humains en Adam depuis. Ils suivent la rébellion d'Adam contre Dieu et ils reçoivent la pénalité juste. La loi n'est pas le problème, mais c'est le péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'était sûrement important pour un chrétien d'origine juive à l'époque de Paul de savoir que Paul n'était pas en train de dénigrer la loi de l'Ancien Testament. Dieu n'est pas en train de changer son plan avec Jésus. Et c'est sûrement le cas aussi pour nous aujourd'hui ou pour nos amis juifs aujourd'hui. Et donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons la loi de l'Ancien Testament, nous pouvons attendre à ce que la loi nomme et définit et nous montre le péché. Et ça va être pour notre bien. La loi ne va pas nous sauver, mais elle va nous montrer notre péché pour que par la suite, nous nous tournions vers Christ qui nous sauve. Deuxièmement, si ce n'est pas la loi qui est le problème, mais notre péché, alors ça veut dire que je ne peux pas me défendre devant une loi fautive. Par exemple, si un criminel est jugé et condamné, il ne peut pas s'excuser et blâmer la loi. Il ne peut pas dire « Ah, mais monsieur le juge, si c'est la loi qui exige que je fasse 5 ans en prison, en fait, c'est le problème de la loi. Alors changeons la loi, oublions la loi. » Non, non, la loi est bonne, elle condamne son crime. La loi n'est pas le problème, c'est le crime, c'est le péché. Et de la même façon, je ne peux pas dire à Dieu, « Ah Dieu, ce que tu demandes de moi, c'est trop difficile. Ce n'est pas ma faute si je n'ai pas pu obéir à ta loi. Ce sont tes commandements qui sont trop exigeants. » Non, ce n'est pas la loi qui est le problème, mais c'est mon péché dont je suis coupable et dont j'ai besoin d'être sauvé. Alors la loi. Si la loi n'est pas le problème, est-elle la solution? Non, car dans la deuxième section, les versets 14 à 25, nous voyons que la loi est impuissante contre le péché. Et c'est notre deuxième titre pour ce matin qui résume l'expérience de la personne que Paul décrit. Alors, quelle est l'expérience de cette personne? En gros, elle est vaincue par le péché. Le verset 15, par exemple. « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Et le verset 18. « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Elle est vaincue par le péché. Et cette personne déplore son état et se lamente au verset 24. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est une expérience déplorable. Et souvent, nous avons tendance à lire ces versets comme traitant de la lutte du chrétien contre le péché. Alors, le chrétien doit lutter contre le péché. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet de ces versets ici. Je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer pourquoi. Il y a d'autres versets bibliques qui parlent de cette lutte du chrétien contre le péché, mais à mon avis, pas ici. Alors pourquoi est-ce que ces versets ne traitent pas de la lutte du chrétien contre le péché? Ben, regardons la réalité de cette personne. Au verset 14, elle est vendue au péché. Au verset 23, elle est prisonnière de la loi du péché. Et au verset 25, cette personne est esclave de la loi de Dieu et esclave de la loi du péché. Et ces réalités ne décrivent pas la personne qui est en Jésus-Christ. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets 5 et 6 du chapitre 7. Et je vous pose la question, en lisant ces versets, est-ce que c'est l'avant, la situation passée ou la situation du présent qui décrit mieux ce que nous lisons plus tard à partir du chapitre du verset 14? Le verset 5, chapitre 7. « En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Donc ça, c'est le passé. C'est le passé pour les chrétiens. Le verset 6, c'est le présent. « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Alors, est-ce que c'est le verset 5 ou le verset 6 qui décrit mieux la situation de la personne à partir du verset 14? Je pense que c'est le verset 5. Le verset 5 qui décrit mieux la réalité de cette personne malheureuse, vaincue par le péché. Et donc, c'est quelqu'un, avant d'être en Christ, avant d'être converti. Et de plus, le chrétien sert aujourd'hui sous le nouveau régime de l'esprit. Le chrétien a reçu l'esprit de Dieu pour vivre pour lui. Or, dans cette lutte contre le péché, à partir du verset 14, on ne parle pas de l'esprit. Il faut attendre jusqu'à plus tard pour voir l'œuvre de l'esprit. Et donc ici, Paul regarde son passé avant d'être converti. Il décrit son passé, sa lutte contre le péché, avec la loi impuissante, parce que c'était une expérience de défaite. Il était vaincu par le péché. Et donc, c'est l'expérience d'une montgolfière qui essaie de partir, qui essaie de voler, mais parce que la montgolfière est toujours attachée au sol, elle n'ira nulle part. C'est l'expérience de quelqu'un qui veut tout faire pour plaire à Dieu. C'est l'expérience de quelqu'un religieux qui veut tout faire pour plaire à Dieu. Mais parce qu'il est toujours sous le péché, en Adam, sous la loi, il n'ira nulle part. Et donc il crie au verset 24, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et Paul ne peut pas s'empêcher de donner la réponse. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc la loi est impuissante contre le péché. Revenez s'il vous plaît à notre baguette. Donc France Info ne va pas vous dire que la baguette est mauvaise demain matin. La baguette est bonne, elle est bonne pour manger avec du fromage, elle est bonne pour tremper dans votre café le matin. Mais par contre, si un de ses piliers commençait à s'effondrer, la baguette est impuissante pour tenir le toit. La baguette est impuissante contre une telle force. Et de la même façon, la loi est impuissante contre le péché. La loi laisse traîner cette expérience déplorable, car il nous faut l'œuvre complète, parfaite, profonde de Jésus-Christ. Cela n'implique pas une victoire totale sur le péché pour les chrétiens. Non, les chrétiens vont continuer à lutter contre le péché, mais ça va être en Jésus-Christ et avec Dieu l'Esprit qui vient à notre secours. Et le chapitre 8 de Romains va nous dire plus. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Je pense à un rendez-vous que j'ai vu il y a 18 mois, quand je faisais un stage dans une autre église. Un homme, un membre d'une sœur de l'église, a pris rendez-vous avec le pasteur. Et il s'est pointé, il est venu, il a expliqué sa situation. Il était divorcé, au chômage. Son colocataire volait ses affaires. Il était éloigné de ses parents. Il était perdu. Et il voulait recommencer sa vie. Alors, quel conseil auriez-vous donné à ce monsieur? Peut-être des conseils plutôt pragmatiques, plutôt pratiques. Peut-être cet homme pourrait faire une heure de recherche d'emploi par jour. Peut-être il pourrait mettre ses affaires sous clé dans son appartement. Peut-être il pourrait commencer à écrire à ses parents. Peut-être venir à l'église le dimanche. Et oui, pourquoi pas, ce sont des conseils sûrement sages et utiles. Mais la première chose que le pasteur a dit à cet homme, il a dit, « Monsieur, je ne peux rien faire pour vous tant que vous ne vous repentez pas de votre péché et tant que vous ne croyez pas en Jésus. » Parce que tout que cet homme allait faire pour essayer de remettre sa vie en ordre sans Christ, allait revenir à des lois impuissantes pour changer sa vie au plus profond. Et donc, si vous voulez remettre votre vie en ordre, si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore fait confiance à Jésus, il faut commencer par là. Il faut commencer par le bon point de départ. Et si nous sommes chrétiens ce matin, si nous luttons contre le péché, ce texte nous avertit que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en ajoutant encore plus de règles que nous allons avancer. Parfois, nous avons une culture d'église où on peut être prompt à ajouter encore plus de règles, de lois pour avancer, pour se protéger. Et ce texte nous avertit que la loi est impuissante contre le péché. Alors, dans ma lutte contre le péché, je n'ai pas forcément besoin de plus de règles, mais j'ai besoin de plus de Christ. Je m'explique. Si quelqu'un dépense trop sur Internet, il ou elle coupe ses cartes bancaires en deux, il ou elle refuse de prendre des prêts, et c'est une bonne chose, c'est sûrement sage. Mais ces actions ne vont pas régler le problème de la cupidité ou de la maîtrise de soi. Quelqu'un se met en colère trop vite à la maison. Donc, il ou elle décide que chaque fois qu'il sent la moutarde lui monter au nez, il va sortir se promener le chien. C'est sûrement une bonne idée du conseil sage. Mais ultimement, ça ne va pas régler le problème plus profond de sa colère ou de son impatience. Et bientôt, le nouvel an, le moment de prendre plus de bonnes résolutions. Mais les bonnes résolutions ne suffisent pas contre le péché. Nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin d'appliquer sa grâce à notre vie. Nous avons besoin de son esprit à l'œuvre en nous. Et nous avons besoin de la grâce qui nous libère et qui motive. Alors, heureusement, ce n'est pas nécessaire de vous passer de la baguette, mais c'était important pour des chrétiens d'origine juive de l'époque de Paul de revoir leur relation avec la loi. S'ils voulaient continuer à appliquer la loi juive dans leur vie chrétienne, Paul dit non. Ce serait revenir en arrière. La loi est impuissante contre le péché. Ne revenez pas en arrière avec la loi, mais avancez avec Christ. Alors, c'est un peu triste de finir une prédication en disant « Revenez la semaine prochaine, mais s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine. » Pour voir à quel point l'œuvre de Christ, elle est puissante contre le péché et comment il nous donne l'esprit pour lutter contre le péché. Je vais prier. Notre Père Céleste, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta loi. Nous reconnaissons que la loi est bonne. Nous reconnaissons aussi que ce n'est pas la loi qui est le problème, mais c'est notre péché. Nous reconnaissons aussi que la loi est impuissante contre le péché. Alors, nous te remercions pour Jésus-Christ qui nous délivre de ce corps de mort. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, et merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Et s'il te plaît, si nous sommes en train d'ajouter des lois et des règles quand nous avons besoin plutôt de revenir à Jésus, que nous fassions cela. Donne-nous cette semaine à revenir à Jésus et à compter sur ce qu'il a fait pour nous. Et nous prions ça pour ta gloire. Amen.